Bonjour et bienvenue à tous. Moi, je suis le père Paolo Victor Lombardi et nous allons commencer une nouvelle série d'émissions sur les œuvres de miséricorde. Alors, quand on parle des œuvres de miséricorde, on parle de l'Église qui, se servant de la Bible, mais aussi de son expérience bimillénaire, résume l'attitude positive envers ceux qui sont en difficulté avec deux séries d'œuvres de miséricorde. Sept corporelles et sept œuvres spirituelles, donc en tout 14 œuvres de miséricorde. Bien sûr, le chiffre 7, nous le savons, est symbolique. On aime beaucoup le chiffre 7 qui nous rappelle la perfection, la complétude. Mais la liste n'est pas exhaustive. Par exemple, nous allons parler de donner à manger à ceux qui ont faim, de donner à boire à ceux qui ont soif, mais on pourrait ajouter aussi donner en jouet à un enfant comme œuvre de miséricorde. Mais on va voir aussi que dans les sept œuvres de miséricorde corporelle et les sept spirituelles, nous pouvons résumer tout type d'œuvres de miséricorde. Mais commençons par les commencements, commençons par le titre. Pourquoi œuvre de miséricorde ? Or, déjà, la miséricorde, c'est une charité qui se penche vers la misère de l'autre. Donc c'est un type spécifique de charité qui se penche vers la misère de l'autre, le cœur qui se penche vers la misère de l'autre. Mais la charité, n'oublions pas, est un type d'amour. La charité et l'amour, c'est la même chose, à ceci près que la charité est un type d'amour, un amour qui se donne totalement, qui est don de soi, qui n'exige pas de retour. Donc ça veut dire qu'on pourrait très bien appeler, et peut-être qu'aujourd'hui ce serait même une façon plus efficace de propager ces œuvres de miséricorde que de les appeler des œuvres d'amour. C'est vraiment la même chose, des œuvres d'amour. Mais on les appelle œuvres de miséricorde pour être un peu plus ciblés. L'amour est quelque chose de très général, la charité est un type d'amour, et la miséricorde est ce type d'amour-là, gratuit, ce don de soi, dirigé vers la misère d'autrui. Donc, on peut dire que les œuvres de miséricorde sont des traductions concrètes de l'amour-charité, car celui-ci n'est pas un pur sentiment. Rappelons Saint Jean dans sa première lettre, « Frères bien-aimés, aimons non pas en parole, non pas en pensée, mais en action, par des œuvres concrètes. » Voilà l'expression concrète de l'amour. Et nous allons commencer par les sept œuvres de miséricorde corporelles, parce que l'homme est un corps et une âme, et aider l'homme dans sa corporéité est très chrétien, quelque chose de très chrétien. Nous sommes la religion de l'incarnation. Le Fils de Dieu s'est fait homme, il a pris une chair comme la nôtre. Et donc c'est Jésus lui-même, nous allons proclamer tout à l'heure la parole de l'Évangile qui fonde cette liste d'œuvres de miséricorde, et nous allons découvrir, ou en tout cas rappeler, que quand nous faisons une œuvre de miséricorde, nous la faisons au Christ lui-même. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'en faisant une œuvre de miséricorde, en accomplissant une œuvre de miséricorde envers quelqu'un, c'est envers le Christ lui-même que nous accomplissons. Mais on peut aller un peu plus loin dans cette réflexion, puisque Dieu est le seul qui est capable de faire miséricorde. En définitive. Donc Dieu a été le premier qui les a accomplis. Nous allons voir petit à petit comment c'est Dieu le premier qui accomplit chaque œuvre de miséricorde. Et donc, ça veut dire que puisque l'homme a été créé à l'image et ressemblance de Dieu, en accomplissant des œuvres de miséricorde, il ressemble à Dieu. Il accomplit cette ressemblance, il fait progresser cette ressemblance qu'il a vis-à-vis de Dieu. Et encore plus, sauvé par le Christ, nous savons combien nous sommes à l'image du Christ lui-même, qui est amour, qui s'est donné, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Donc nous allons voir comment le lien entre être et agir s'exprime dans les œuvres de miséricorde. C'est parce qu'on ressemble à Dieu qu'on peut accomplir des œuvres de miséricorde. Mais on peut aussi inverser la phrase. C'est parce que l'on accomplit des œuvres de miséricorde qu'on ressemble plus à Dieu. Ou plutôt, plus le Seigneur nous donnera d'accomplir des œuvres de miséricorde, plus on ressemblera à notre Dieu qui est miséricordieux. Nous avons les paroles de Jésus dans le sermon sur la montagne. Soyez miséricordieux comme votre Père du ciel est miséricordieux, au chapitre 6 de l'Évangile de Luc. Donc, entrons en matière en proclamant l'Évangile de Saint Matthieu qui fondera nos œuvres de miséricorde corporelle. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir ?» Et le roi leur fera cette réponse, « En vérité, je vous l'ai dit, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, mes frères, nous avons vu comment le Seigneur lui-même nous dit que nous serons jugés sur l'amour, un amour concret, un amour qui s'est traduit dans des faits concrets. Et tout ce que nous faisons aux plus petits des frères du Christ, c'est à Jésus lui-même. Le pape Paul VI, Saint Paul VI aujourd'hui, nous rappelle dans son encyclique sur l'Eucharistie, quand il parle des présences du Christ, le Christ qui est présent dans la figure du pasteur, de la hiérarchie de l'Église, le Christ qui est présent dans sa parole, le Christ qui est présent quand deux ou trois sont réunis en son nom, c'est-à-dire dans l'assemblée qui se réunit pour prier, pour célébrer, le Christ qui est présent de façon sublime, sacramentelle dans l'Eucharistie, mais le Christ qui est présent aussi chez les pauvres. Donc quand on prend les présences du Christ, on ne peut pas oublier ce type de présence du Christ-là. Le Christ qui est présent dans celui qui souffre, dans celui qui a besoin de moi, dans celui qui m'interpelle. Et la première œuvre de miséricorde, c'est, nous avons entendu, donner à manger à ceux qui ont faim. Donc cette première œuvre de miséricorde, donner à manger à ceux qui ont faim, tout d'abord nous devons réfléchir sur ce que ça veut dire. Évidemment, au premier degré, ça veut dire donner à manger, donner de la nourriture à celui qui n'en a pas, tout simplement. Déjà, c'est Dieu le premier qui l'accomplit, c'est lui qui donne à manger à toute créature, c'est lui la cause première. Bien sûr, nous travaillons, nous achetons de quoi manger, il y en a qui plantent, qui récoltent, etc. Mais en définitive, c'est le Seigneur qui nous a donné la nourriture, c'est le Seigneur, le Créateur, qui a donné des vivres à ses fidèles, comme disent plusieurs psaumes, comme nous pouvons voir aussi dans le récit de la Genèse, le récit de la création. Ensuite, c'est le Seigneur qui a nourri notamment son peuple dans le désert. Vous vous souvenez comment le peuple dans le désert a faim, et c'est le Seigneur qui envoie la manne du ciel, c'est le Seigneur qui nourrit son peuple avec des cailles, donc avec du pain, de la viande. Donc, pour cela, nous disions que quand nous accomplissons une œuvre de miséricorde, nous faisons ce que Dieu a fait le premier et nous ressemblons à Dieu. Mais nous pouvons aller un peu plus loin dans notre réflexion et comprendre que quand on parle de manger, on parle de tout besoin que nous avons pour vivre, des choses nécessaires, des choses indispensables pour vivre. C'est-à-dire qu'on parle du pain, on parle de la nourriture, mais on peut parler aussi du travail. Quand nous donnons du travail à celui qui n'en a pas, celui qui est au chômage, on donne quelque chose qui est essentiel pour lui, qui est indispensable pour vivre. dont il a besoin. Et donc, nous accomplissons aussi cette première œuvre de miséricorde en donnant du travail à celui qui n'en a pas. Ou alors, un autre exemple, donner des médicaments ou prodiguer des soins à ceux qui ne peuvent pas payer, à ceux qui n'en ont pas, c'est aussi cette première œuvre de miséricorde, puisqu'on donne quelque chose d'indispensable. Normalement, le médicament, les soins qu'on donne à quelqu'un, ce n'est pas pour faire plaisir. Normalement, c'est pour quelque chose d'important, c'est pour la santé, pour que la personne soit bien dans sa peau, pour que tout simplement qu'elle aille bien. Et donc, ce sont des choses nécessaires et indispensables. Et donc, nous pouvons voir que toute œuvre de miséricorde corporelle, notamment, on est dans cette première liste des œuvres corporelles, toute œuvre de miséricorde peut être prise au premier degré. Il faut qu'elle soit prise au premier degré, donc donner à manger, donner de la nourriture. Ensuite, on peut l'élargir au sens profond de l'action. Comme je viens de dire, manger exprime un besoin indispensable, nécessaire, et donc je peux élargir au sens profond de cette action en disant le travail, les médicaments, les soins. Mais nous pouvons aussi l'élargir en troisième degré, un degré spirituel. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses indispensables à la vie que les médicaments, le travail, le pain, la viande. Il y a la parole de Dieu. Et cela, nous, les chrétiens, mes frères, on ne peut pas l'oublier. C'est-à-dire que quand on donne la parole de Dieu, quand on annonce l'évangile, quand on parle de Dieu à l'autre, on est en train de le nourrir. Et parfois, notre société, depuis déjà un ou deux siècles, essaye de nous faire oublier cela, en disant que dans l'Église, on parle trop de Dieu, on proclame trop la parole, et finalement, on ne donne pas à manger. Non, c'est-à-dire que pour nous, si nous croyons vraiment que la parole de Dieu est quelque chose d'indispensable, c'est un besoin, ce n'est pas un en plus, ce n'est pas quelque chose de superflu. Voilà, une fois que j'ai tout le basique de ma vie, j'ai tous les fondements de ma vie bien assis, maintenant, je peux monter d'un cran, je peux parler de Dieu, je peux recevoir Dieu. Non, si pour nous, chrétiens, la foi en Dieu, sa parole qu'on reçoit, la vie que nous avons avec Dieu est indispensable, l'amour de Dieu pour nous est un besoin que nous avons pour vivre et nous le croyons, alors pour les autres aussi. Alors pour les autres, c'est aussi important que la nourriture, voire plus. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus qui le rappelle. Déjà Dieu dans le Deutéronome, et Jésus, quand il vint, la première tentation, quand le tentateur lui dit à ses pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus est dans le désert depuis 40 jours, je vous rappelle la scène, il a très faim. Et le démon lui dit de faire en sorte que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus lui répond tranquillement, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est-à-dire, et le pape Jean-Paul II nous le rappelle dans une encyclique, dans une exhortation plutôt, qu'il a écrite pour les nouveaux millénaires, il nous rappelle que l'annonce de la bonne nouvelle, ce qu'on appelle le kérigme, l'annonce de l'évangile, est la plus grande œuvre de charité, la plus grande œuvre de miséricorde. Parce que seule l'annonce de la bonne nouvelle peut délivrer l'homme de ses esclavages plus profonds. Quand nous avons parlé des péchés capitaux, des vices capitaux, nous avons montré. C'est-à-dire qu'on a beau donner tout à l'homme, l'homme ne se résume pas à sa matérialité, on a beau donner tout ce qu'il faut pour vivre, si l'homme n'a pas Dieu, et nous pouvons en faire l'expérience nous aussi, si l'homme n'a pas Dieu, l'homme n'a rien du tout. Et donc c'est très important de se rappeler que pour nous les chrétiens, annoncer le kérigme, annoncer l'évangile, c'est la plus grande œuvre de charité. Mais, évidemment, la charité d'action accompagne aussi la charité des mots. Donc, cette façon d'annoncer l'évangile s'accompagne et est démontrée comme étant valable, comme étant sincère, si elle est accompagnée aussi par des gestes concrets, comme, en l'occurrence, en cette première œuvre de miséricorde, donner à manger à ceux qui ont faim. Donc l'Ancien Testament déjà nous rappelle à plusieurs reprises l'importance d'aider l'autre, d'être dans la charité, beaucoup plus important que de jeûner, nous dit l'Ancien Testament, beaucoup plus important que d'offrir de sacrifices. Je vous rappelle juste, je vous relis un passage du prophète Isaïe au chapitre 58, qui est une page assez importante pour le temps du carême, par exemple. Et le Seigneur nous rappelle ceci par les prophètes. « N'est-ce pas plutôt ceci le jeûne que je préfère, défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans-abri? Si tu vois un homme nu le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair, alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur te suivra. Alors tu crieras et le Seigneur répondra, tu appelleras et il dira, me voici. » Voyez, mes frères, nous découvrons ici que le Seigneur, quand nous pratiquons la charité, quand nous accomplissons des œuvres de charité, notre prière est encore plus forte, c'est l'accompagner des œuvres de charité. Quand nous pratiquons la charité, nous dit le Seigneur, notre blessure, nos blessures les plus profondes, les blessures de notre cœur, peuvent être guéries. Ça nous aide à comprendre que parfois, quand nous avons des blessures affectives, spirituelles, nous avons tendance à nous renfermer en nous-mêmes, vous savez, à pleurer, à nous apitoyer sur notre propre sort. Or, cette parole et toute cette liste d'œuvres de miséricorde nous invitent au contraire à sortir de nous-mêmes. Et comme celle nous disait, tu veux guérir de cette blessure profonde, alors au lieu de te regarder toi-même tout le temps, regarde l'autre. Aide l'autre, donne à manger à ceux qui n'en ont pas. Aide l'autre à progresser, à avancer dans la vie de n'importe quelle façon. Comme j'avais dit, le travail, les médicaments, il y a tellement de façons. On peut aider quelqu'un à avoir ses documents, par exemple, à avoir ses papiers. Il y a des gens qui sont sans papiers, on peut les aider à avoir ses papiers. Donc on n'a pas donné du pain, on n'a pas donné un morceau de viande, mais on a aidé quand même à cette personne à exister dans la société, à avoir ses droits reconnus, etc. Et donc cette parole nous invite à ça, sortir de nous-mêmes, comme le Christ l'a fait. Si nous sommes des chrétiens, nous sommes à l'image du Christ. Et qu'est-ce qu'a fait le Christ? Nous dit Saint Paul dans la lettre aux Philippiens. Il n'a pas retenu comme étant quelque chose, comme une proie à saisir, le fait d'être égal à Dieu, mais il s'est abaissé. Il s'est fait homme. En étant homme, il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Pour cela, le Père l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, de telle façon qu'au nom de Jésus, tout genou se plie au ciel, dans la terre, et sur terre et sous la terre. C'est-à-dire que, de même que le Fils de l'homme, Jésus est sorti du sein du Père pour nous rejoindre dans notre misère, dans ta misère, pour exprimer, pour montrer l'amour du Père pour chacun d'entre nous, de même nous sommes appelés à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l'autre, de la misère de l'autre. Et grâce à cela, le Seigneur petit à petit nous guérira, nous aidera et exaucera nos prières.
Père, vous nous avez parlé, en citant le prophète Isaïe, vous avez dit que c'est un chapitre important pour ce temps aussi de carême. Et dans ce passage, donc, il est dit, le jeûne qui me plaît, c'est donc faire du bien au prochain, dans tous les domaines. Donc, est-ce que cela veut dire qu'il n'est pas, finalement, il n'est pas tellement nécessaire de pratiquer le jeûne physique, hein, de jeûner, de nourriture, etc. Est-ce que ça se complète ou ça s'annule?
Très bonne question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup, en lisant cette parole ou en entendant des paroles de pasteurs, de théologiens, de personnes importantes au niveau de la spiritualité, peuvent se dire, et alors il ne faut plus jeûner, il ne faut plus faire des actes de pénitence, des mortifications corporelles, ou même la prière, il faut juste faire du bien autour de soi, et puis c'est bon. Non, la question n'est pas là. Il faut comprendre que le prophète Isaïe critique un peuple qui, à un moment donné de son histoire, avait réduit sa relation à Dieu au culte, au culte extérieur, c'est-à-dire les sacrifices, les prières, le jeûne, tout en oubliant le prochain. Et par exemple, on peut penser à quelqu'un qui jeûnait beaucoup, qui passait sa journée à prier, mais que dès qu'il sortait du temple, il maltraitait, il parlait mal à tous les autres, il oubliait ceux qui avaient besoin, ne payait pas ses employés, etc. Donc les prophètes nous rappellent que les deux choses vont ensemble. Ce que nous faisons dans l'église ou à la maison, au niveau de la prière, au niveau de la mortification corporelle, au niveau de la pénitence, c'est très important parce que ça nous donne la force d'âme pour pouvoir accomplir le bien. Voilà comment les deux choses vont ensemble. C'est-à-dire que le Seigneur a voulu que notre relation à lui passe à travers notre relation au prochain. Ça, c'est un mystère. Ça, c'est une nouveauté d'ailleurs du christianisme, mais aussi un mystère. Le Seigneur a voulu que la qualité de notre relation avec lui soit mesurée par la qualité de notre relation au prochain. Et cela, mes frères, est indispensable pour nos chrétiens. Il ne faut jamais l'oublier. Et j'espère que cette série d'émissions sur les œuvres de miséricorde va nous aider à entrer plus en profondeur déjà, à comprendre les différents types d'œuvres de charité, mais surtout à nous donner envie de les pratiquer. Une bonne journée à tous.
La nuit de ton chemin.